Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Rodolphe et les secrets de Meyerling, Jean Descartes examine l'une des affaires les plus controversées de la fin de l'Empire austro-hongrois, la mort de l'archiduc héritier Rodolphe de Habsbourg et de Marie Vetsera, retrouvée au pavillon de chasse de Meyerling le 30 janvier 1889. Longtemps, la version officielle a présenté le drame comme un suicide à deux, lié à une relation amoureuse sans issue. L'auteur, historien et biographe des dynasties européennes, propose plutôt une contre-enquête nourrie par le contexte politique de l'époque. Par des sources accessibles après l'ouverture progressive de fonds d'Europe centrale et par une confidence que l'impératrice Zita lui aurait faite en 1982. L'ouvrage ne se limite donc pas à reconstituer une nuit mystérieuse. Il retrace aussi les 30 années de Rodolphe, ses rapports avec François-Joseph et Sissi, ses convictions libérales et les fragilités d'un empire confronté au nationalisme. C'est à la fois une biographie politique, une étude dynastique et une enquête historique attentive au silence des archives. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, Meyerling distinguait le récit officiel des hypothèses de contre-enquête, le point de départ du livre et l'écart entre une explication institutionnelle, longtemps dominante, et les doutes qui l'ont accompagné dès l'annonce du drame. Le 30 janvier 1889, Rodolphe, héritier de l'Autriche-Hongrie, et Marie Vetsera, âgée de 17 ans, sont découverts morts à Meyerling. La thèse du suicide amoureux permettait de donner au public un récit intelligible, tout en limitant les conséquences politiques et religieuses d'une mort violente au sein de la famille régnante. Jean Descartes invite à examiner cette simplicité apparente avec prudence. Il ne traite pas les zones d'ombre comme des preuves automatiques d'assassinat. Il les place dans une enquête où la communication de la cour, les contradictions rapportées par divers témoins et la rareté des documents doivent être pesées. Sa démarche consiste surtout à montrer pourquoi la version officielle ne clôt pas nécessairement le dossier. La différence est essentielle, une énigme historique ne se résout pas en substituant une certitude sensationnelle à une autre, mais en comparant la solidité des récits disponibles. Le livre fait ainsi de Meyerling un cas d'étude sur la fabrication d'une vérité d'État. Il rappelle que les autorités dynastiques avaient un intérêt direct à contrôler l'interprétation d'un événement susceptible d'atteindre la légitimité successorale et l'image morale de la monarchie. Deuxièmement, Rodolphe de Habsbourg, un héritier libéral dans une monarchie conservatrice, l'enquête gagne sa portée politique par le portrait de Rodolphe avant Meyerling. Jean Descartes le présente comme un prince plus réceptif aux idées libérales que son père, l'empereur François-Joseph. Cette orientation ne doit pas être confondue avec un programme politique parfaitement défini, ni avec une capacité réelle à transformer l'Empire Rodolphe, restait l'héritier d'un système impérial fortement hiérarchisé. Elle éclaire néanmoins les tensions qui l'entouraient, dans une Autriche-Hongrie traversée par les revendications nationales. Les inégalités sociales et la concurrence des puissances européennes, un successeur ouvert à des réformes pouvait susciter autant d'attentes que de méfiance. L'auteur insiste sur l'intérêt du prince pour la connaissance concrète de ses sujets et sur son contraste avec un souverain plus absorbé par le travail administratif et la préservation de l'ordre établi. Ce contraste familial donne au drame une dimension qui dépasse la vie privée. Si Rodolphe envisageait une évolution de la monarchie, sa disparition pouvait modifier l'équilibre futur de la dynastie. Le livre ne prouve pas pour autant que ses opinions constituent un mobile établi. Il explique pourquoi elles rendent l'hypothèse d'un conflit politique historiquement pensable. Cette nuance est centrale, le contexte fournit des motifs possibles et des adversaires potentiels, mais ne remplace pas une preuve directe. Troisièmement, la confidence attribuée à l'impératrice Zita et la question des sources familiales. Un élément distinctif de l'ouvrage est la place accordée à la rencontre de Jean Descartes avec l'impératrice Zita en 1982. Dernière impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, Zita appartenait à un univers familial où le souvenir de Meyerling demeurait particulièrement sensible. Selon l'auteur, elle lui aurait affirmé que Rodolphe avait été assassiné. Cette parole donne une impulsion à son enquête, mais elle pose aussi une question de méthode, quel statut accorder à un témoignage tardif, même issu de la famille impériale ? Le livre tire son intérêt de cette tension entre révélation et vérification. Une confidence peut orienter la recherche vers des documents, des incohérences ou des acteurs négligés. Elle ne devient pas, à elle seule, une démonstration historique irréfutable. Descartes s'appuie plus largement sur des recherches menées en Europe centrale et sur des sources devenues plus accessibles après les bouleversements politiques du XXe siècle. Cependant, les lacunes documentaires restent constitutives de l'affaire. Les archives officielles ont longtemps été difficiles d'accès et le dossier Meyerling est associé à une forte culture du secret. Le lecteur est donc conduit à évaluer les degrés de certitude. Cette approche est utile au-delà du cas Habsbourg. Les mémoires dynastiques peuvent conserver des informations précieuses, mais elles portent également des intérêts, des fidélités et des reconstructions rétrospectives. Quatrièmement, Marie Vetsera sortir d'une lecture réduite au seul romantisme tragique. La présence de Marie Vetsera est indispensable à l'affaire, mais Jean Descartes cherche à déplacer le regard au-delà de l'image conventionnelle du couple maudit. La jeune baronne est souvent absorbée par le récit romantique de Meyerling, une maîtresse adolescente. Un héritier malheureux et une mort présentée comme l'aboutissement fatal d'une passion interdite. Or, cette représentation peut masquer les enjeux de preuve. Les circonstances exactes de sa mort, le traitement ultérieur de sa dépouille et les versions concurrentes du drame ont alimenté les interrogations historiques. L'auteur mobilise notamment les éléments qui fragilisent certaines descriptions traditionnelles, sans pouvoir transformer toutes les incertitudes en conclusions définitives. Cette réserve importe les controverses médico-légales ou funéraires peuvent invalider une explication trop simple, mais elle ne désigne pas mécaniquement les responsables d'un éventuel crime. Le livre met ainsi en évidence une asymétrie fréquente dans les récits dynastiques. Rodolphe est analysé comme acteur politique, tandis que Marie risque d'être réduite à un symbole amoureux. En replaçant son sort au cœur du dossier, l'enquête rappelle que la version officielle devait rendre compte de deux décès, non seulement de la crise personnelle de l'héritier. Cette attention empêche de traiter Meyerling comme une légende sentimentale et oblige à considérer les contraintes sociales, familiales et médiatiques qui ont façonné la mémoire de Marie Vetsera. En dernier lieu, une biographie de l'Autriche-Hongrie autant qu'une enquête sur un décès. Avec plus de 500 pages selon certaines éditions, Rodolphe et les secrets de Meyerling élargit volontairement son objet. Le drame final n'est compréhensible, pour Jean Descartes, qu'à partir de l'environnement dynastique et impérial dans lequel Rodolphe a grandi. Le lecteur rencontre donc François-Joseph, Sissi et les mécanismes d'une cour ou les obligations de succession, les mariages. Les réputations et les rivalités politiques relèvent d'affaires d'État. Cette ampleur explique que le livre puisse paraître dense à qui cherche uniquement une résolution rapide de l'énigme. Elle constitue aussi sa principale valeur analytique. La mort de l'archiduc n'est pas étudiée comme un fait isolé, mais comme le produit possible de relations familiales difficiles, de contraintes institutionnelles et d'une Europe où la stabilité des empires est moins assurée qu'elle ne semble. Le style d'enquête, souvent comparé à celui d'un récit policier, sert ici une ambition historique, faire dialoguer chronologie, biographie et hypothèse. Descartes ne peut lever définitivement toutes les incertitudes, notamment faute d'un dossier complet et incontestable. En revanche, il montre comment l'absence même de transparence devient un objet historique. Meyerling révèle alors les limites du pouvoir impérial, une monarchie capable d'imposer le silence public, mais incapable d'empêcher durablement la multiplication des récits concurrents. En conclusion, ce livre s'adresse d'abord aux lecteurs intéressés par les Habsbourg, Sissi, François-Joseph et les dernières décennies de l'Autriche-Hongrie. Il conviendra aussi à ceux qui apprécient les enquêtes historiques où l'on doit distinguer les documents, les témoignages tardifs, les versions officielles et les hypothèses plausibles. Son bénéfice intellectuel principal est de déplacer Meyerling du registre du fait divers romantique vers celui d'un problème politique, dynastique et documentaire. Le lecteur comprend mieux pourquoi la disparition d'un héritier ne pouvait être une affaire strictement privée, et comment les impératifs de raison d'État peuvent durablement orienter la mémoire d'un événement. Par rapport à des récits centrés sur la seule liaison entre Rodolphe et Marie Vetsera, Jean Descartes se distingue par l'ampleur de sa contextualisation biographique. Il consacre une place substantielle au caractère du prince, au rapport entre les membres de la famille impériale et aux tensions de l'Empire. Sa singularité tient également à l'importance donnée à la confidence de Zita et à la thèse d'un possible complot politique. Cette orientation doit être lue avec esprit critique, elle ouvre un dossier et met à l'épreuve une version établie, sans abolir les incertitudes inhérentes à une affaire dont les sources sont fragmentaires. Ce n'est donc pas l'ouvrage idéal pour qui exige un verdict définitif et bref. C'est, en revanche, une lecture riche pour comprendre pourquoi Meyerling demeure une énigme historique et pourquoi ses interprétations restent liées au secret d'une monarchie disparue. Si vous souhaitez soutenir Jean Descartes, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.